Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Dans un instant, il y aura le journal de la culture d'Hélène Manarino et puis notre invité Jean-Christophe Ruffin pour la sortie de son dernier roman Le Flambeur de la Caspienne, avec évidemment son portrait inattendu. Et puis, dans les indispensables, de la musique avec les sorties musicales et un livre pour voyager dans le temps. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
C'est votre journal de la culture et là je suis ravi d'apprendre ceci, une information étonnante, les chats qui se mobilisent pour le cinéma indépendant. C'est quoi cette histoire?
Vous avez un chat, Philippe.
J'ai une chatte, elle s'appelle Poluche, elle nous écoute.
On l'embrasse, surtout.
Oui,
bisous Poluche.
Ouais.
Alors... Étonnant quand même cette information. Une mobilisation de chats complètement inédite pour tenter de sauver les salles de cinéma de la faillite. Le 44 Film Festival, qui est un événement consacré aux chats sur Internet, a décidé d'aller aider le 7e art. Alors comment cela va-t-il se passer? Pendant ce festival, il est proposé de visionner en ligne un film de 75 minutes, une compilation des chats les plus mignons, drôles, dont la chatte de Philippe, filmée pendant le confinement. 130 chats du monde entier ont été sélectionnés sur les 1200 vidéos reçues. Et oui, non, mais c'est génial. Et pour participer, donc vous allez sur le site rowhouse.online, rowhouse.online. Donc le prix de ce festival, 12$, et la moitié de la somme sera reversée au cinéma indépendant que vous choisirez aux États-Unis ou ailleurs.
Attendez, j'ai pas compris. Le prix du festival, 12$. 12$, ils vont verser la moitié, ils vont verser 6$.
Bah oui.
Bah non, ça va vraiment les aider, 6$.
Mais s'il y a 1 million de personnes, par exemple.
Ah, parce que chacun doit donner cet argent.
Évidemment.
Ah, c'est le ticket d'entrée qui est à 12$. C'est absolument formidable, je vais le faire. Très belle initiative, donc on peut tous se mobiliser. Poluche, si tu m'entends. Tout à fait autre chose, des photos d'un tableau volé de Van Gogh qui refont surface.
Exactement, ce tableau a été volé le 30 mars. Je vous en avais parlé, le jardin du presbytère de Neuen au printemps. Mmh. Il se trouvait dans le musée Singer Laren, près d'Amsterdam. Des voleurs avaient forcé la porte d'entrée alors que le musée était fermé suite au coronavirus. Un expert d'art a reçu, il y a quelques jours, des photos. Celle du tableau, avec la une du New York Times dessus pour prouver la date, évidemment, de la prise des photos. Mmh. Pour lui, aucun doute. C'est le tableau volé avec néanmoins une petite éraflure en bas. Il se pourrait donc que les voleurs essaient de trouver un acheteur.
Un nouveau directeur musical pour l'Orchestre de Paris.
Il s'appelle Klaus Makela, il a 24 ans seulement. Il était le chef principal de l'Orchestre Philharmonique d'Oslo et il arrivera à Paris en 2022. Il s'occupera du répertoire, des tournées, des enregistrements de disques. Il succède à Daniel Harding. Klaus Makela évoque dans un communiqué un sentiment de confiance et de connexion immédiate lors de sa première rencontre avec les musiciens de l'Orchestre de Paris. Alors le 1er septembre 2020, il sera d'abord conseiller musical de l'orchestre avant donc de devenir directeur en 2022 pour une durée de 5 ans.
Et puis hier, Hélène, vous nous annonciez le nom de l'actrice qui va incarner Lady Di au cinéma et ça ne plaît pas à tout le monde.
Dans le film Spencer, et c'est l'actrice américaine Kristen Stewart qui a été choisie. Et ce sont les Anglais qui ne sont pas contents. Ils ne voulaient pas d'une américaine. Certains déclarent beaucoup d'actrices britanniques auraient été mieux pour ce rôle. La princesse Diana avait la classe. Kristen Stewart ne lui ressemble pas. Ne pouvait-on pas prendre une actrice britannique? Bref, ils ne sont pas contents. Et ce n'est pas la première fois parmi les 5 actrices à avoir incarné la princesse Diana sur grand écran. Seuls 2 étaient britanniques, Serena Scott et Amy Secombe.
Et puis on va passer à la musique. Thomas Dutronc, ce soir en concert.
Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser, je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser.
Thomas Dutronc, plus je t'embrasse. Ça se passera au Canal Saint-Martin à Paris. Il chantera le long des quais parisiens sur un bateau. Donc ce soir de 19h30 à 22h, c'est Christine Bravo qui l'a aidé.
Ah bon?
Thomas Dutronc sera accompagné de 4 autres musiciens ainsi qu'une équipe pour filmer ce concert très original. Il sera retransmis sur les réseaux sociaux. Il débutera à Bastille et se terminera devant l'Hôtel du Nord. Bon, alors les gens présents pourront entendre juste un morceau car le bateau avance évidemment.
C'est drôle.
Mais une idée très festive quand même. Thomas Dutronc précise qu'il a même prévu ses cachets pour le mal de mer.
Et non pas ses cachets de musicien. On termine ce journal par un titre des Arctic Monkeys qui réalise un exploit.
« Do I Wanna Know. Cette semaine, ce morceau a dépassé le milliard de vues sur YouTube. Véritable exploit alors que leur nombre d'abonnés est d'environ 4 millions. Ce morceau était sorti en juin 2013. C'est l'un de leurs plus grands succès avec plus d'1,7 million de ventes. Il rejoint donc la liste des titres qui ont dépassé ce fameux milliard comme Despacito ou encore Shape of You de Ed Sheeran. C'est très rare quand même qu'un morceau rock dépasse cette barre symbolique. Avant lui, il y a eu November Rain de Guns N' Roses ou encore Numb de Linkin Park.
Merci beaucoup Hélène, à tout à l'heure pour votre portrait inattendu.
À tout à l'heure.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
Bonjour Philippe.
Je dois le dire, vous êtes une personne assez extraordinaire. Vous êtes médecin, vous avez fait Sciences Po en plus de médecine. Vous étiez engagé 20 ans dans l'humanitaire, vice-président de MSF, président d'Action contre la faim. Vous êtes désormais connu comme écrivain, prix Goncourt avec Rouge Brésil. 800 000 exemplaires, mais vos autres livres aussi se vendent beaucoup, c'est pas fini. Vous avez été reçu en 2008 à l'Académie française et vous avez été ambassadeur de France au Sénégal. C'était de 2008 à 2011. Et votre actualité, vous publiez enfin votre roman Le Flambeur de la Caspienne chez Flammarion. Je dis enfin parce qu'il était déjà sorti. Moi, je l'avais déjà. Et puis, il y a le confinement. Et là, il ressort dans les librairies. C'est le retour de votre petit consul, un diplomate atypique, qui était déjà au cœur de vos romans Le Suspendu de Conakry et Les Trois Femmes du Consul. Cette fois, l'histoire se passe à Bakou, en Azerbaïdjan. Et vous qui choisissez attentivement les lieux de vos récits, pourquoi là-bas? Pourquoi Bakou?
Bakou, parce que c'est une ville surprenante. Et d'ailleurs, c'est le cœur de l'intrigue, puisque il est envoyé là-bas, on croit qu'on le punit en l'envoyant là-bas, et pas du tout. Il arrive et il découvre une ville magnifique, une ville qui a été construite à la fin du 19e siècle, à partir de rien, sur rien d'ailleurs, au milieu de rien. Mais quand il y a eu le premier boom pétrolier, quand ils ont découvert le pétrole, ils n'avaient rien, donc ils ont fait venir des architectes français, et ils se sont construits un petit Paris au milieu des sables.
On dirait du haussmannien.
C'est haussmannien.
C'est haussmannien sans Haussmann, au milieu de l'Azerbaïdjan.
Au milieu de rien. Et c'est tout propre, c'est-à-dire que c'est un Paris dans lequel il n'y aurait pas un tag, pas une crotte de chien, rien du tout. Et vous pouvez... Bon, c'est un pays musulman, mais en même temps très libéral, donc vous pouvez boire votre petit vin blanc en terrasse, etc. Mmh. Donc Aurel, le consul,
il y va, lui.
Il est très content.
Il n'en boit pas qu'un.
Non, il n'en boit pas qu'un.
Il en boit plusieurs, des petits vins blancs, c'est même des gros vins blancs. Donc Aurel Timescu, il a une nouvelle affectation, donc à Bakou, à l'ambassade de France. Il sent que l'ambassadeur, qui s'appelle Gilles de Carteron, le déteste, et que cet ambassadeur va tout faire pour le virer. Sauf que l'épouse de l'ambassadeur est morte récemment, dans des conditions mystérieuses, et du coup...
Oui, ben, il joue sa peau parce que il est tellement bien là, il a envie de rester. L'autre, il veut le mettre à la porte. Alors, il se dit, faut que je trouve quelque chose. Et puis, en y réfléchissant, il s'est dit, cet ambassadeur, il a quelque chose à cacher. Pourquoi il m'en veut comme ça? Pourquoi je lui ai rien fait finalement? Bon, c'est vrai qu'il a mauvaise réputation. Aurel, on sait qu'il est un tir au flanc. Mais enfin, quand même, t'as l'agressivité, il a quelque chose à cacher. Alors, il a cette intuition, il tire le fil, et puis tout le reste vient avec.
Voilà, et il mène l'enquête. Votre personnage, je vais en parler, il s'appelle Aurel Timescu, jeune consul adjoint. Je vous cite, calamiteux diplomate, dans le Figaro, Jean-René Van der Platzen écrit « Il y avait Arsène Lupin, Sherlock Holmes, Hercule Poirot et Jules Maigret. Désormais, il y aura aussi Aurel Timescu, un héros récurrent, qui rappelle par moments le lieutenant Colombo, auquel il emprunte plusieurs traits de caractère qui lui permettent de passer pour un être inoffensif, alors qu'il n'a pas son pareil pour démêler les fils d'une intrigue complexe. Et attendez, la suite est fin. On prend le pari, Aurel Timescu est appelé à un grand destin romanesque. » Et vous dites vous-même, Jean-Christophe Ruffin, que vous partez souvent pour vos personnages, de personnes véritables. Vous avez été ambassadeur. Qui était votre modèle?
je veux désigner personne. Vous savez, c'est tout
un mix de plusieurs.
Oui, disons que des personnages comme ça dans la diplomatie, ça existe.
Ah bon?
Ça existe.
Non, il faut le raconter. J'avais jamais vu ça. Quand même, je vous raconte. Je vous montre la couverture du livre. Donc, on le voit derrière une image. Cette image, c'est un photomontage. Mais il y a un photographe. Il y a écrit sur la quatrième de couvent, tout petit dans les notes, caractère 8. Couverture, photographie d'Aurel Timescu, Pascal Ito. Donc le type existe, on dirait une sorte de Philippe Catherine, avec des pompes tricolores de clown, sans être des pompes de clown, un grand manteau alors qu'on crève de chaud, un pantalon trop court, et c'est une espèce de besace
oui,
en cuir.
Qu'il faut comprendre...
C'est qui ce mec-là, franchement?
Il faut comprendre pourquoi. En fait, il est né en Roumanie, à l'époque communiste. Là-bas, il a végété sous Ceausescu, etc. Puis il rêvait de l'Europe. Ouais. Mais l'Europe des années 30, ce qu'il voyait sur les films. Donc il a l'élégance qu'il imaginait être celle des Européens. Puis quand on a pu en effet le racheter, puisque sa famille l'a racheté à l'ouest, l'a fait passer à l'ouest. Il est arrivé là, bah, il a continué à s'habiller.
Non, j'ai compris tout ça. Mais vous en avez vu des types habillés comme ça ?
Non, alors, bon, pas forcément habillés comme ça, mais disons habillés n'importe comment, oui.
Et lunaire à ce point ?
D'ailleurs, ça m'a toujours frappé quand j'étais ambassadeur au Sénégal. Les Sénégalais sont très sensibles à l'élégance, qu'ils soient habillés en boubou, qu'ils soient habillés à l'européenne, ils sont très
chics.
Ils sont très chics. Et les Français, par rapport à ça, ne sont pas toujours à la hauteur. Ça m'a souvent frappé dans des réunions. Je regardais autour de moi et je voyais les Sénégalais tirer à quatre épingles. Toujours vraiment élégant. Et nous, on est un peu les spécialistes de la chaussette tire-bouchonnée, de toutes les couleurs, etc. Hein, ça existe.
Même
ça.
Dans l'ambassade.
Ouais, ouais,
moi,
ouais.
J'avais vu les pubs Tang et je pensais que tout le monde était hyper sapé. Pas du tout.
Sapé à sa manière. C'est-à-dire que les gens pensent être bien habillés, mais parfois, ça est à côté. Quoi.
Et ouais. Puis, je vous demandais comment vous avez travaillé, parce que non seulement vous décrivez dans vos livres des paysages, des ambiances, mais également des situations politiques. Vous restez avec nous, Jean-Christophe Ruffin, évidemment.
À suivre, le portrait inattendu d'Hélène Manarino, portrait grâce auquel on va tout savoir de vous, Jean-Christophe Ruffin, et c'est dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Hélène Manarino, vous êtes avec nous.
Évidemment.
J'étais en train de vous présenter et vanter votre accent britannique à Jean-Christophe Ruffin qui vous découvre.
Je vais parler anglais, Jean-Christophe Ruffin. Faites attention. Hein.
Hélène, c'est à vous.
Bonjour Jean-Christophe Ruffin.
How are you?
I'm fine, thank you and you. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors déjà, parlons de vos habitudes. Votre journée commence systématiquement avec un café et un peu de lait entier. Si vous n'avez pas de cela, vous ne pouvez pas commencer vos occupations. Et attention, s'il n'y a plus de lait, vous pouvez mettre du beurre.
Ouais.
Est-ce qu'il y en avait ce matin ?
Oui, ben non, oui, j'en ai toujours parce que je ne peux pas boire un café sans lait. Je sais pas pourquoi,
mais du lait entier, je ne connais que vous.
Ah bon ?
Ouais, et du beurre aussi, ouais, mettre du beurre dans son café.
N'importe quoi, n'importe quel corps gras, un peu, voilà, c'est idiot. Hein, c'est le côté nourrisson qui est resté chez moi. Quoi,
Jean-Christophe Ruffin, allongez-vous et votre analyse va arriver. Allez-y, prenez votre temps.
Vous faites Hélène. Attention aux choses, aux objets. Vous êtes sûrement le seul collectionneur de petites cuillères que vous volez dans les avions.
Non.
Une mission que vous avez, confiée.
Oh oui. J'adore ce que la prochaine fois que vous allez prendre l'avion, l'hôtesse, elle va vous mater.
J'ai des centaines de petites cuillères. Et mon rêve, c'est d'arriver à trouver des collectionneurs qui échangeraient parce que j'ai telle compagnie, etc. Enfin, toute une collection incroyable.
Mais avoir un service entier, Lufthansa.
Je ne vole que ça.
Ouais.
Alors, une mission que vous avez quand même confiée à vos filles, puisque plus jeunes, elles volaient les petites cuillères des différentes compagnies aériennes pour vous. Bon, aujourd'hui, elles sont en plastique, donc il suffit d'en acheter un peu partout. En tout cas, c'est une vraie... Encore ? Alors, les cuillères, mais pas que. Vous avez l'âme d'un romantique aussi, Jean-Christophe Ruffin. Les fleurs pour votre femme, ça peut vous ennuyer. Vous allez au-delà. Vous avez offert à votre épouse une arme à plomb que vous avez installée dans l'entrée de votre appartement. Voilà, un stand de tir.
Non.
Si, ben je fais du tir, mais c'est du tir à plomb. Hein.
Le tir,
je le fais dans un club, le tir à balle.
Ouais.
Non, je ne tire pas à balle dans mon appartement. Ça, c'est... Mais le pistolet à plomb, c'est assez sympa.
Bah oui, c'est sympa.
Mais comme
bien
cadeau,
sûr.
C'est bien, c'est romantique.
Non, mais attendez, vous avez un stand de tir chez vous.
Eh ben, j'avais dans mon précédent appartement, parce qu'il y avait un long couloir qui faisait juste 10 mètres. Et donc 10 mètres, bah, c'est la...
T'imagines le mec de Deliveroo qui se trompe d'heure.
Mais il fallait donc bien prévenir avant quand on entrait chez vous. Alors très superstitieux, il est en revanche interdit d'ouvrir un parapluie à l'intérieur ou de passer sous une échelle, Jean-Christophe Ruffin.
Vrai, ouais.
Et pourtant, rien ne vous fait peur. Vous êtes capable de mettre au défi absolument tout le monde. Comme votre fille, âgée de 13 ans à l'époque, vous lui avez proposé de faire l'ascension du Mont Blanc et pendant 2 semaines, vous l'avez préparée. À seulement 13 ans.
Oui, il avait 14 ans en fait. Hein.
Ouais, et elle l'a fait ?
Oui, elle l'a fait presque jusqu'en haut et c'est un peu ma faute d'ailleurs parce que peut-être qu'elle n'était pas assez couverte. Enfin, elle n'a pas fait la toute dernière partie. Mais non, elle était très contente, on était avec des copains et tout.
Je précise que vous êtes médecin.
Oui,
donc s'il arrive quelque chose, non mais je dis pour les gens qui s'inquiètent en se disant ce type est complètement fou,
non,
il est quand même médecin, il voit s'il y a quelque chose qui ne va pas.
Oui, non, elle était la preuve.
Ouais.
Alors pas de temps à perdre avant même de savoir marcher, vos filles ont su faire de l'escalade, vous les entraînez à Fontainebleau, elles ont appris à faire les nœuds, les techniques de rappel, bref, tout est possible, même de faire une séance photo de l'un de vos amis en Grèce pour un livre que vous étiez en train d'écrire, vous l'aviez déguisé en conquistador, sauf que la séance s'est déroulée sous une tempête hors norme, les bateaux du port étaient complètement retournés et vous avez réussi à garder quand même une photo de cette séance. Sportif, aventurier, rien d'étonnant que la carte que vous préférez abattre, Jean-Christophe Ruffin. C'est votre carte de fidélité Décathlon. Vous pouvez...
C'est vrai.
Un mythe s'effondre. Mais... C'est génial.
Désolé. Hein.
J'ai un grand...
C'est vrai.
Oui, ouais, j'adore tous ces instruments.
Mais qu'est-ce que vous achetez? Parce qu'une fois qu'on a tout acheté...
Des vêtements techniques. Ah ben non, ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le temps. Vous voyez, par exemple, là, je me suis acheté une montre pour... Quand je cours et tout, qui est...
Ouais, mais il y a plein de choses.
Ouais.
Parce que vous pouvez y passer des heures donc, pour observer, oui, les équipements de montagne, les polaires, les baudriers, voilà. Alors, observateur donc, qui aime l'aventure et la légèreté, vous ne reculez devant rien pour justement faire avancer tout le monde.
Waouh, merci Hélène.
Merci.
Je vous imaginais absolument pas comme ça.
Ben, je suis assez sportif, moi, j'aime bien... Oui,
Non, je sais, mais je ne vous imagine pas chez Décathlon en train de tournicoter d'un rayon à un autre.
Il n'y a pas que Décathlon, ça pourrait être le vieux campeur, enfin... Vous avez...
Ah, parce que vous avez toutes les cartes de fidélité.
Oui, c'est ça, avec les petites cuillères.
On va citer GoSport. Tant qu'à citer des annonceurs, on va citer GoSport. Attendez, j'avais lu un truc il y a très longtemps, vous écriviez, là aussi le mythe s'était effondré, parce que vous parliez d'élégance, vous écrivez vraiment en jogging chez vous?
Oui, parce que je trouve que c'est physique, moi j'écris à la main, parce que j'écris mes livres très très vite, et puis c'est un peu comme de monter, je sais pas, de faire la ascension d'une montagne. C'est-à-dire que quand vous avez 600 pages en quelques jours, il faut sortir en écrivant à la main, ça fait... Voilà, il y a un côté presque physique. Quoi.
Ouais.
Moi, j'aime bien ça. Donc, je m'habille que quand je viens chez vous.
Bah, tant mieux, c'était rester réussi avec une chemise extrêmement bien repassée. Et juste un mot, votre éditeur, c'était en 2011, je le cite de mémoire, vous disiez déjà, arrête de dire que tu écris très vite.
Oui, j'ai des amis qui me disent ça, par exemple, André Makin, par exemple, il me dit, mais tu gâches le métier, il faut dire qu'on prend beaucoup de temps pour écrire les livres, sinon on va nous prendre pour des rigolos. Moi, je n'ai pas ce problème parce que... Au fond, qu'on écrit vite, qu'on n'écrive pas vite, je pense que c'est la même chose. En plus, ça n'a pas vraiment de sens parce qu'un livre se prépare longtemps, on y pense. Et puis ensuite, quand on l'écrit, bah, on le rédige plus ou moins vite. Donc moi, j'y pense longtemps. Puis quand je l'écris, bah, je l'écris vite. Mais ça ne retire rien. Vous voyez, Simonon, que j'admire infiniment, il écrivait ses bouquins en
deux semaines, trois semaines.
C'est la blague où Orson Welles téléphone à Simonon. La secrétaire lui dit, je ne peux pas vous le passer, il écrit un livre. Et Orson Welles dit, c'est pas grave, je patiente. C'est-à-dire que, voilà, et en fait, voilà, c'est cette idée que, qu'on écrive vite. Ben, pour moi, c'est une qualité plutôt.
Ben, c'est comme une émission.
Ouais.
On met beaucoup de temps à la préparer, puis après, ça ne dure pas très longtemps.
Oui.
Mais heureusement, il y en a une autre lundi. Vous restez avec nous. Hein.
Ouais.
C'est Jean-Christophe Ruffin qui est notre invité. Avec lui, dans un instant, on découvrira nos indispensables. On parlera musique avec les sorties d'albums de la semaine et littérature avec un livre qui va nous faire voyager dans le temps. On reste sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
C'est l'heure, Philippe, de nos indispensables. On va parler musique avec Angèle Châtelier dans un instant. Avant, on revient à notre invité Jean-Christophe Ruffin pour son livre Le Flambeur de la Caspienne, sorti chez Flammarion.
Oui, c'est un jeune consul qui arrive dans une ambassade à Bakou en Azerbaïdjan et il sent que l'ambassadeur va le virer et il découvre qu'il y a une faille dans le portrait de l'ambassadeur, c'est que la femme de l'ambassadeur a disparu dans des conditions assez mystérieuses. Il sent que l'ambassadeur n'est pas très très triste de cette disparition, ou alors il croit pas à la sincérité de son chagrin et donc il enquête. Voilà. Mais cette enquête, c'est également pour vous un prétexte, Jean-Christophe Ruffin, de décrire des paysages, des ambiances et une situation politique. Comment travaillez-vous? Comment vous avez travaillé pour celui-ci? Je me souviens de Katiba que j'avais lu en 2010, qui racontait ce qu'était la Katiba. Je l'ai appris là. C'était un sanctuaire de terroristes dans le Sahel. C'était extrêmement documenté, mieux qu'un article de presse, puisque c'était sur 300 pages. Mmh. Là, comment vous avez travaillé sur ce livre?
Bah déjà, je suis allé plusieurs fois en Azerbaïdjan et ça, ce livre-là, je l'ai écrit au retour d'un voyage, du dernier voyage que j'ai fait là-bas. Donc j'étais un peu imprégné aussi de rencontres. J'avais dîné avec des sénateurs, j'ai mis des sénateurs dans le livre, ils ne sont pas forcément très contents, mais peu importe. Puis les paysages, tout ça, c'était là. Si vous voulez, voilà. Moi, je n'aime pas la documentation dans la poussière des bibliothèques ou des livres, sauf évidemment s'il s'agit de livres historiques qui se passent il y a très longtemps. Mais sinon, j'aime bien aller sur place. Et voilà, c'était un peu c'était le secret, on disait autrefois, de Philippe de Gérard de Villiers pour les SAS. Il allait sur place. Et d'ailleurs, je l'ai bien connu. Et à un moment donné, il voulait que je lui succède. Il m'avait dit, j'aimerais bien que tu continues les SAS. Je lui ai dit, écoute, j'ai eu le prix Goncourt et tout, c'est compliqué d'écrire les SAS. Mais il y avait quelque chose de fort, c'est-à-dire qu'il était toujours allé sur place. Et moi, j'ai retenu cette leçon. Parce que c'est comme ça qu'on met de la vie dans un bouquin. C'est en n'ayant pas fait une documentation dans un service de presse, mais en étant sur le terrain. Quoi. Voilà.
Et en voyageant, vous voilà. Écoutez quoi comme musique, Jean-Christophe Ruffin ?
Oh, moi, je suis un peu... je suis un sinistré de l'oreille. Moi, j'écris pas... J'ai jamais de musique quand je travaille, déjà. Je n'ai pas beaucoup de musique chez moi. Et c'est vrai que je suis un visuel. Alors, ouais. Si j'étais sur une île déserte, j'emporterais... de la peinture, des livres, etc. Et la musique ne manque pas. Ouais. Mais bon, mais sinon...
Pour vous dire à quel point cette émission est bien préparée, c'est que maintenant, on va parler de musique. Bonjour Angèle, Angèle Châtelier.
Ah mon Dieu.
Mais non, c'est pas grave, c'est la vie. C'est ça, c'est le télescopage de l'actu. Pendant des semaines, il n'y a hélas pas eu de sortie d'album physique. Et là, ça bouchonne, finalement, Angèle, et c'est tant mieux.
Oui, on ne sait plus trop où donner de la tête. Ouais. J'adore. Aujourd'hui, on célèbre un songwriter de légende. On écoute du rock psychédélique et enfin de la chanson française. Alors, on commence par un grand retour, celui de Bob Dylan et son 39e album, première chanson originale en 8 ans. I'm first among equals, second to none, the last of the best, you can bury the rest. Bury 'em naked with that silver and gold. Put 'em 6 feet under and I pray for their soul. Un album dans lequel Bob Dylan se lie à travers le destin des autres. Il convoque l'écrivain Edgar Allan Poe, le bluesman Jimmy Reed, et puis il se compare en inversé à Anne Frank, Indiana Jones et ses bad boys britanniques, je cite, les Rolling Stones. Just like Anne Frank, like Indiana Jones. And them British bad boys, the Rolling Stones. I go right to the edge. I go right to the end. I go right where all things lost are made good again. Je suis comme Ad Frank, comme Indiana Jones et ses bad boys britanniques, les Rolling Stones. Je vais jusqu'au bout, je vais jusqu'à la fin, je vais là où tout ce qui a été perdu est finalement réparé. Une phrase très mystérieuse, autant que la façon dont il s'en est justifié au magazine New York Times à l'une des rares interviews qu'il a faites. Bob Dylan est plutôt un taiseux, pas coutumier des médias. Il a dit « La chanson est comme un tableau. On ne peut pas tout voir d'un coup si on se tient trop près. Les morceaux individuels ne sont qu'une partie d'un tout. » Voilà.
Il est aussi prix Nobel de littérature. Me faire remarquer Jean-Christophe Ruffin pendant qu'on écoutait la musique. Voilà, comprenne qui pourra.
C'est ça, mais c'est une phrase qui correspond bien au nouvel album de Bob Dylan. 9 titres éclatants, généreux et simplement beaux.
Alors, on va également parler la semaine prochaine aussi dans Culture Média. Ariel Dombal et Nicolas Kerr sortent un nouvel album et la chanteuse sera notre invitée jeudi.
Dombal et Nicolas Kerr, vous savez, c'est un peu comme ces couples d'amis qu'on a dans notre entourage où on se dit, ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font ensemble,
ouais.
Ces deux-là.
Ouais, mais enfin, au moins, ils sont en couple.
Voilà, alors, voilà pour le tag. Nicolas Kerr, c'est une figure du post-punk français. Il est aussi ravagé que bouleversant. Ses pensées obscures, il en fait de la musique puissante, invulnérable. Puis de l'autre côté, vous avez Ariel Dombal, déjanté aussi, mais alors, chevaleresque et avec Empire, cet album commun. Ils ont pourtant pris le meilleur d'eux-mêmes pour produire 11 titres qui mélangent volontiers le rock psyché aux envolées électro, le lyrisme au punk, c'est absolument divin.
Et puis Angèle, vous nous parliez de chansons françaises également dans les sorties de la semaine.
Oui, j'ai nommé Thomas Dutronc. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is la vie en rose. De retour avec Frenchie, son nouvel album où il revisite de grands classiques. Alors, La vie en rose, hein, de Piaf, Get Lucky des Daft Punk, Ne me quitte pas de Brel, le tout en version jazzy. C'est doux, un poil nonchalant, presque comme il faut, mais surtout terriblement délicat.
Merci beaucoup, Angèle. Il y a quelque chose qui vous a plu ? Vous avez le droit de dire rien. Vous savez, si on est libre de parole.
Non, mais je pense que oui, Dylan.
Dylan.
Pour les textes.
Dylan. Il est magnifique.
Dylan, oui.
Cet album est magnifique.
Oui, et puis, enfin, c'est quand même un phénomène. Je veux dire, ça fait combien ça?
Ça faisait 8 ans qu'il n'était pas revenu.
50 ans de carrière. Donc, il suture notre passé, notre enfance, notre jeunesse. Là, comme ça, c'est fou. Il est toujours là.
Oui, tout à fait.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Jean-Christophe Ruffin qui est notre invité. Et avec lui, Philippe, on va découvrir un livre présenté par Nicolas Caro.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Philippe.
Nicolas, vous nous emmenez ce matin en Italie et à travers le temps.
Oui, littéralement, avec la machine Ernetti. Signé Roland Portiche chez Albin Michel. C'est la saison des thrillers en ce moment. Moi, je suis comme Laurent Mariotte et Petit Renaud. Je respecte les saisons y compris pour la littérature. Donc, Ernetti, Pellegrino Ernetti, c'est le nom d'un moine, un prêtre. Nous sommes dans les années 50. Un jour, il tombe sur les notes d'un physicien de renom qui a existé, Ettore Majorana. C'est de la physique quantique hyper complexe. Mais à partir de ces notes, Ernetti met au point une machine incroyable, le chronoviseur.
Qu'est-ce que c'est que ça, le chronoviseur?
C'est une machine à voyager dans le temps. Alors pas pour se rendre physiquement dans le passé ou dans le futur, comme dans Retour vers le futur ou n'importe quel autre film ou livre de science-fiction. Non, là, avec le chronoviseur, on peut seulement voir dans le passé. On peut visualiser et entendre ce qui s'est passé à tel ou tel endroit il y a 5 ans, 1 siècle, 1000 ans, ce qu'on veut. Vous allez me dire, c'est un bon gros délire de science-fiction. Or, le chronoviseur a existé.
Non.
Enfin, en tout cas, ce roman est basé sur une histoire vraie. Roland Portiche.
Ce qui est vrai, c'est que Pierre Ernetti, d'abord, a vraiment existé. Et on connaît sa date de naissance, il est né en 1925, il est mort en 1994, et c'était une sorte de touche-à-tout, un peu musicologue et un peu physicien. Alors il a dit, et il a affirmé avoir construit, vers le milieu des années 50, une machine qui avait la faculté de voir dans le passé. C'est ce qu'il appelait un chronoviseur. Et donc, avec ce chronoviseur, il aurait exploré des époques récentes ou moins récentes et même très lointaines, comme par exemple la période évangélique, les quelques années où a vécu et enseigné Jésus de Nazareth.
Et c'est le point de départ du roman.
Et voilà, et donc c'est un ecclésiastique et il en parle au pape, évidemment, au Vatican, à Pie XII en l'occurrence. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on a envie d'aller voir quand on est pape? Eh bien Jésus, il demande au père Ernetti de regarder 2000 ans en arrière et au passage de prouver l'existence, les miracles et les faits et gestes du Christ. Or, c'est là que ça se complique. Ernetti découvre quelque chose d'énorme. Je ne vous dirai pas quoi, bien sûr. Jésus a existé, ce n'est pas le problème. Ça, on n'avait pas besoin du chronoviseur pour le savoir. Mais bon, bref, je ne vous dis rien. Je vais aller trop loin sinon. Ernetti découvre quelque chose et le chronoviseur est enterré au fin fond des archives du Vatican dans un lieu secret pour qu'on l'oublie. J'ai dit, on est en pleine guerre froide, vont s'en mêler la CIA, le KGB et le Mossad. Et puis, l'histoire se passe au Vatican. Ce n'est pas un simple roman de science-fiction, c'est aussi un roman d'espionnage, de diplomatie, un roman de guerre froide, augmenté de tous les mystères qui entourent le Vatican, qui est quand même le lieu idéal pour construire un roman basé sur des mystères.
L'intérieur du palais du Vatican, que j'ai eu la chance de visiter. J'ai en particulier visité les archives secrètes du Vatican, qui s'appellent les archives apostoliques du Vatican, qui est un endroit tout à fait exceptionnel, dans lequel sont conservés des milliers et des milliers de documents qui vont du procès de Galilée au procès de Giordano Bruno ou au procès des Templiers. Et à l'intérieur de ces archives secrètes, il y a ce qu'on appelle le bunker, c'est-à-dire un endroit ultra secret dans lequel le père Ernetti aurait construit sa machine.
Et ça donne un roman d'aventure, donc d'espionnage et de science-fiction, un peu tout ça. C'est aussi une belle réflexion sur l'histoire avec un grand H, mine de rien. La morale, c'est qu'il est peut-être préférable de regarder l'histoire par les livres et les historiens, c'est-à-dire par une forme quand même de fiction, si on veut, plutôt que d'accéder aux images brutes. Et puis, c'est un fantasme aussi, ce livre. Je ne sais pas, vous, Philippe ou Jean-Christophe, par exemple, si vous aviez un chronoviseur, qu'est-ce que vous iriez voir?
Moi, les hommes préhistoriques, les grottes Lascaux, et vous-même, Jean-Christophe?
Oh, j'irais peut-être voir le cardinal de Richelieu, le 17e, c'est avec les trois mousquetaires. J'aime bien cette période-là.
Ouais, et peut-être Cléopâtre aussi, et Jules César.
Oui, Cléopâtre. Oui.
En fait, vous savez quoi? Ruffin et moi, on irait tout regarder. Ouais. Je dis juste ça. Si la machine existe, donnez-nous l'adresse de la machine.
Regardez la vie des autres.
Ouais, on va regarder.
Dernière partie de Culture Média, dans un court instant, avec notre invité Jean-Christophe Ruffin sur Europe 1.
9h,
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Suite et fin de Culture Média avec notre invité Jean-Christophe Ruffin. On parle de son dernier livre, Le Flambeur de la Caspienne, sorti chez Flammarion.
Vous avez travaillé pendant le confinement. Vous dites vous-même que votre priorité, c'est pas écrivain. Comment s'est passé le confinement pour vous, Jean-Christophe Ruffin ?
Ben non, moi, l'écriture, ça a toujours été dans les marges un petit peu. Ouais. Mais j'ai commencé par un métier dur, si je peux dire, la médecine, qui me prenait beaucoup dans les hôpitaux, etc. Bon, ben là, j'ai proposé d'ailleurs mes services. Je me suis inscrit sur la réserve médicale, là, mais enfin, personne ne m'a demandé.
C'est pas vrai. Vous étiez où ?
Ben, j'étais en Haute-Savoie. Et en fait, il n'y a jamais eu vraiment de tension sur les hôpitaux dans cette région. Enfin, il y a eu des tensions, mais qui étaient gérables avec le personnel en question. Non, moi, j'ai passé un confinement de lecteur, plus que de...
Ouais.
Parce que écrire, ça nécessite quand même d'avoir un projet, d'être prêt, etc. Moi, je m'attendais pas à ça. Je revenais du Brésil. J'avais passé 2 mois au Brésil, au mois de janvier-février, pour travailler sur l'Amazonie et tout ça. Et quand le confinement a commencé, j'avais pas vraiment un programme. Donc... voilà, j'ai lu beaucoup, j'ai réfléchi, j'ai peut-être pris des notes pour un prochain livre, mais je n'ai pas écrit.
Vous avez été numéro 2 de MSF, Médecins sans frontières, vous êtes médecin, je l'ai dit. Comment vous avez jugé la réponse médicale à la pandémie française, j'entends ?
Ben, j'ai trouvé un peu jacobine, c'est-à-dire que chaque pays a réagi à sa manière. C'est intéressant parce que vous avez des pays fédéralistes qui ont laissé un large, autonomie.
Chaque land décidait de ce qu'il allait faire.
C'est ça. Et je pense qu'ici, on a bien vu que ce n'était pas comme ça. Donc, comme il y avait une urgence à Mulhouse, on a bouclé la Lozère, où il ne se passait rien. Bon, c'est un petit peu dommage parce que moi, j'ai, dans la région où j'habite, en Haute-Savoie, il y a eu les premiers cas en janvier. Et ils ont été très bien jugulés. Hein. Le premier cluster, comme on dit en français, a été très bien jugulé. Il y en a un dans le Morbihan aussi. Donc, à ce stade-là, je pense qu'on aurait pu faire quelque chose d'un peu plus différencié. Je pense qu'on paye un prix très, 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 très lourd pour une mesure qui a été très brutale. Bon, alors, effectivement, on peut toujours dire que sur le moment, il n'y avait pas le choix. Hein. Moi, je jette la pierre à personne. Je dis juste qu'il faudra tirer le bilan de tout ça. Quoi.
Et quel bilan, justement, je vais vous demander ça. Que vous enseigne cette pandémie, selon vous ? Vous avez dit cette épidémie est un retour de l'histoire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
C'est un retour de l'histoire ici. C'est-à-dire que nous, Européens, Français en particulier, on avait pris l'habitude depuis 50 ans de considérer que on n'était plus soumis au risque ni de guerre, ni d'épidémie, ni de famine, ni quoi que ce soit. Bon, on était, ce qui est rare hein, dans notre histoire, parce que tout le 19e siècle, toute la moitié du 20e siècle, c'était une histoire de guerre, de catastrophes, d'épidémies. Donc tout d'un coup, depuis la fin des guerres coloniales, depuis 50 ans, on s'est dit, nous, on n'est plus là-dedans. Alors les drames, tout ça, c'est loin, c'est ailleurs. Mmh. Et on a créé ces organisations type Médecins sans frontières pour aller s'occuper de ça. Ailleurs. Et puis aujourd'hui, les réfugiés, ils sont sous le métro à Stalingrad. La guerre, elle est là avec Charlie Hebdo ou Bataclan, s'il vous plaît. Mm-hmm. Et maintenant, l'épidémie. Voilà. C'est pas exceptionnel, c'est juste le retour de l'histoire.
Puisque vous parlez de guerre, vous n'avez pas aimé cette phrase d'Emmanuel Macron, nous sommes en guerre.
Oui, mais d'ailleurs, c'est drôle parce que deux jours, là, je rencontrais Hélène Karadankos, on parlait de ça parce que elle spontanément elle me disait la même chose. Elle disait il faut garder un sens au mot. Le mot guerre, il est lié à quelque chose de précis, c'est-à-dire qu'il y a un ennemi constitué, il y a des armées, etc. Et en disant qu'il y a une guerre, on risque de chercher justement un ennemi. C'est-à-dire que, et on voit que dans certains pays, on s'en est pris aux étrangers. En Allemagne, il y a eu des histoires avec des Français qui ont été attaqués. En Afrique, il y a eu des. Vous voyez donc attention, là, c'est pas une guerre, c'est une mobilisation. Collective, et je pense que l'idée de guerre, elle infantilise un petit peu tout le monde. C'est-à-dire que du coup, c'est guerre, on obéit. Quoi. Alors que là, il faut plutôt collaborer.
Et vous dites aussi une remarque très juste faite par vous, mais comme vous êtes médecin et que vous êtes académicien, donc entre guillemets immortel, elle prend un sens particulier, vous dites aujourd'hui la mort d'un centenaire est considérée comme un drame.
Ben oui, moi quand j'ai fait mes études, si vous voulez, quand on devait réfléchir, par exemple, est-ce qu'on peut opérer quelqu'un, on disait qu'il a 70 ans. Alors on dira 70 ans, bon. Et puis après, un peu plus tard, on a dit, bon, même 80 ans. Oh, 80 ans, allons-y, on peut y aller. Mais maintenant, on va l'opérer, il a 90 ans, on va opérer. C'est un centenaire. On va quand même lui changer sa hanche. Bon. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de montée, c'est formidable, c'est très bien, c'est le progrès. Simplement, je pense qu'on est un peu à une limite, là. Alors là, il y a des choix, quoi. On sauve les centenaires, mais à quel prix ?
Merci, on restera sur cette interrogation. Merci beaucoup Jean-Christophe Ruffin d'être venu nous voir. Je le rappelle, c'est chez Flammarion, ça s'appelle Le Flambeur de la Caspienne et c'est le dernier roman de Jean-Christophe Ruffin qui est avec nous en direct sur Europe 1. Culture Média revient non pas demain mais lundi. Nous serons avec Emmanuel Lebert pour le premier numéro du Doc Quotidien sur TMC. Il sera consacré justement à nos aînés, qui est le nouveau mot pour dire senior, qui est déjà le nouveau mot pour dire les vieux. Et puis ensuite, la chanteuse Émilie Loiseau pour la sortie de son nouvel album Run, Run, Run. C'est en hommage au chanteur Lou Reed. Salut Céline Dacosta.
Salut Philippe Vandel.
Bon week-end à lundi.
Bon week-end à lundi. Dans un instant, ça fait du bien avec Anne Romanoff, toute sa bande et leurs invités. Aujourd'hui, Sophie Fontanelle et Pierre-Jean Chalençon sur Europe 1.